CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. L'hiver arrive sous congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ah, cool, j'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
CIBL. 101.5.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mardi 19 mars et ici Charline Carreau, votre animatrice pour la meilleure matinale de Montréal. Et aujourd'hui, on reçoit le président du journal Les Échos Montréal ainsi que l'OBNL Alternative, sans oublier le dernier reportage de notre journaliste Daniel Biru. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, 92% des restaurants et des commerces alimentaires n'utiliseraient plus d'articles en plastique à usage unique. C'est ce qu'avance en tout cas la ville de Montréal qui a interdit leur usage il y a un an, ce qui comprend les verres, les pailles ou encore les assiettes par exemple. Pour veiller à la bonne application de cette mesure, plus de 8000 inspections ont été réalisées. Et ensuite, les 23 et 24 mars prochains, BANQ offre la 4e édition des rendez-vous numériques à la grande bibliothèque du centre-ville. Le thème de cette année, c'est intelligence artificielle, culture et création. Ce seront deux journées pour débattre, expérimenter et comprendre les outils liés à l'IA. Vous pourrez ainsi retrouver des conférences, des ateliers et des classes de maîtres, le tout gratuitement. C'est donc à retrouver cette fin de semaine à la Grande Bibliothèque. Toutes les infos sur le site bnq.qc.ca. De notre côté, on continue sur CIBL avec l'entrevue des responsables de l'organisme Alternative. Je reçois ce matin Jérémy Bouchez et Cassandra Boisvert de l'organisme Alternative. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous venez aujourd'hui nous présenter votre programme de stages internationaux pour les jeunes. Mais avant ça, est-ce que vous pourriez commencer par présenter la mission d'Alternative ainsi que vos mandats respectifs?
Oui, bonjour. Moi, c'est Cassandra Boisvert. Je suis chargée de projet et recherche de financement pour l'organisme Alternative.
Jérémy Bouchez, je suis agent des communications et formateur pour Alternative. Et je vais présenter Alternative. C'est en fait une organisation de solidarité, créée en 1994. Donc on va fêter les 30 ans cette année.
Bon anniversaire.
Oui, avec j'espère en grande pompe. Et puis donc Alternative œuvre pour les droits humains, civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux au Québec, au Canada, mais surtout à l'international. Mm-hmm. Okay. Et puis, dans le but de réaliser sa mission de soutien à l'action citoyenne et la contribution autonome des mouvements populaires et sociaux, dans la construction, bien sûr, de sociétés durables, l'Alternative s'est alliée au fil des années avec de nombreux partenaires, et c'est le cas dans le programme dont on va parler aujourd'hui. Donc, des partenaires à l'échelle locale, mais surtout à l'échelle internationale. Et la mission, en fait, ça consiste également à proposer des stages à l'étranger. Voilà pourquoi on va en parler aujourd'hui, principalement dans des pays du Sud global, ce qu'on appelle le Sud global. Ce qui permet à des jeunes d'acquérir de l'expérience dans des domaines variés comme la communication stratégique, engagée, afin d'outiller certaines communautés, la défense des droits environnementaux, le droit à l'éducation, ça va être surtout en Amérique du Sud, le droit des femmes, etc. Et cette expertise, ça c'est important de le souligner, a permis à l'organisme de placer plus de 2000 stagiaires en trois décennies. Ce qui est,
c'est pas mal. Pense,
oui, c'est beaucoup. Oui. Et j'aimerais d'ailleurs insister sur le fait que sur plusieurs aspects considérant les stages. Premièrement, le fait que ce programme de stage, en fait, c'est dans l'ADN d'Alternative depuis le début, depuis sa création et le début de ses activités en 1995. Deuxièmement, c'est important pour l'organisme de coller aux valeurs défendues par le mouvement de la décolonisation. Qui est bien sûr présent dans le Sud global. C'est d'ailleurs pour ça qu'on établit vraiment un véritable dialogue avec les partenaires à l'étranger. C'est vraiment un dialogue dans les deux sens. Ce n'est pas juste du nord-sud, c'est vraiment sud-nord aussi. Mm-hmm. Et donc, les stages qu'on propose sont intégralement conçus, élaborés et même améliorés avec les partenaires du Sud global. Mm-hmm. Et puis finalement, on peut dire que c'est un processus d'amélioration continue, en fait. Et cette nouvelle itération du programme de stages internationaux pour les jeunes, qui est d'ailleurs, faut le dire, financée par Affaires mondiales Canada. Et ben, en fait, quand elle participe aussi à cette amélioration continue, et donc les cohortes, pendant les 5 prochaines années, vont bénéficier de ça.
Voilà. Très bien. On en vient justement au programme de stages internationaux pour les jeunes, aussi appelé PSIJ. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste?
Oui, ben, je peux me permettre de vous expliquer un peu plus. En fait, là, ce nouveau programme-là, c'est vraiment là, dans la continuité des nombreuses initiatives que nous avons menées auprès des jeunes au Québec et au Canada au cours des 30 dernières années. Alternative, avec l'aide du programme de stages internationaux pour les jeunes, donc le PSIJ, financé par Affaires mondiales Canada, va venir traduire une réelle volonté de former la relève dans le domaine de la solidarité et de la coopération internationale. Lors de la mise en place de notre ancienne édition du PSIJ de 2018 à 2022, nos stagiaires avaient exprimé que leurs difficultés d'emploi étaient principalement liées au manque d'expérience professionnelle au Canada et à l'étranger, mais aussi à cause de la discrimination en lien avec leur identité. Selon une étude qu'on a menée auprès des jeunes racisés à Montréal dans le cadre de la mise en place de notre Observatoire des inégalités raciales du Québec, les stéréotypes et les préjugés influencent la façon dont les employeurs perçoivent les jeunes issus de minorités raciales et ethniques, ce qui peut malheureusement réduire leurs chances d'être embauchés ou promus. Puis malgré les politiques développées, que ce soit en matière d'égalité entre les sexes, les politiques d'intégration des jeunes femmes ou encore les politiques de diversification culturelle et ethnique, les jeunes des groupes minoritaires, plus précisément les minorités visibles, culturelles ou sexuelles, ont du mal à franchir les obstacles majeurs pour obtenir un emploi stable. Donc, c'est pour répondre à cette problématique que chaque année, durant les 5 prochaines années, Alternative va offrir à travers le PSIJ l'opportunité à des jeunes Canadiens ou Canadiennes confrontés à des discriminations, la chance de participer à des stages de 3 à 4 mois au sein de nos organisations partenaires dans 16 pays différents. Le programme a donc pour objectif de fournir aux jeunes la possibilité d'acquérir une expérience professionnelle à l'étranger dans le domaine du développement international, mais aussi la chance de développer des compétences qui vont les préparer à un futur emploi ou à la poursuite de leurs études. Mm-hmm. Donc, dans le cadre de la participation au programme, là, Alternative vient vraiment couvrir l'entièreté des frais reliés au stage. Donc, les stagiaires n'ont rien à débourser. Donc, par là, on entend là, les assurances voyage médicales, les billets d'avion, le visa si nécessaire, l'organisation du logement au sein d'une famille d'accueil ou les frais d'hôtel, les frais liés à la vie courante, donc par exemple la nourriture. Puis Alternative vient aussi offrir une formation pré-départ de 4 semaines et des ateliers post-stage au retour. Donc c'est vraiment là un programme entièrement offert pour les jeunes Canadiens et Canadiennes.
C'est assez inédit cette gratuité aussi totale pour des stages à l'international.
Oui, vraiment. Donc c'est comme la chance à apprendre là, qu'on n'a pas besoin de débourser pour
c'est
aller
très rare,
vivre.
Oui.
Oui, c'est ça. D'aller vivre une expérience aussi transformatrice à l'étranger, mm-hmm. puis qui va autant bénéficier là, pour le futur. Puis je vous dirais là, qu'après l'édition, dans le fond, 2024-2028, donc après 5 ans, notre objectif ultime est vraiment d'accroître l'employabilité des jeunes faisant face à des obstacles à l'emploi afin qu'ils et elles réussissent à se tailler une place au sein d'un marché de travail plus inclusif. Donc, pour y parvenir, là, dans les 5 prochaines années, on va travailler avec plusieurs partenaires à l'étranger pour la réalisation des mandats. Donc, par exemple, il va y avoir l'organisation CLADE en Amérique latine, l'ONG RAIL au Bénin, NAFSO au Sri Lanka et Protège QV au Cameroun. Mais aussi, on va falloir travailler avec plusieurs organisations et entreprises québécoises à Montréal pour nous appuyer dans le recrutement, mais aussi dans la formation des stagiaires. Donc là, on va parler de Funambule Média, de TELUC, l'Université d'Ottawa et l'Observatoire des inégalités raciales au Québec. Mmh.
Quels sont les profils des personnes, des jeunes que vous accompagnez? Est-ce que vous avez une tranche d'âge? Une sorte de...
Oui, ça c'est destiné intégralement à des jeunes de 18 à 30 ans, inclusivement.
D'accord, jusqu'à 30 ans quand même.
Exactement, oui, c'est quand même assez large. Ouais. Ça laisse quand même une plage assez grande à des gens qui soit ont déjà une expérience de travail, mais ont du mal, à, comme Cassandra vient de le dire, ou des jeunes qui veulent essayer de parfaire leur, leur connaissance et avoir des outils avant peut-être même de rentrer sur le marché du travail, parce qu'on l'a vu, ils vont affronter des défis plus grands et plus importants que la moyenne.
Ouais. C'est ça, vous priorisez quand même les jeunes qui rencontrent des obstacles sur le marché du travail avant tout ?
Oui, exactement, oui. Qui ont vécu ça ou qui sont en voie de le vivre.
On rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous auriez quelques mandats à nous présenter pour que l'on comprenne bien la nature de ces stages ?
Ben oui. Juste pour préciser, en fait, la grande thématique de cette nouvelle édition du PSIJ pour Alternative s'intitule « Femmes, éducation et communication pour une diversité transformatrice ». Donc, ça démontre un petit peu vers quelle thématique on va y aller avec nos mandats. Mais on retrouve vraiment pour tous les goûts, on a des mandats qui sont assez diversifiés. Mais dans les thématiques, on va retrouver de la communication stratégique, les nouvelles technologies, les droits des femmes et des communautés, le droit à l'éducation et des thématiques plus touchées, qui vont toucher plus à l'environnement. Donc, vraiment des thématiques qui vont venir renforcer les capacités de nos partenaires et les appuyer aussi dans la réalisation de leurs missions et de leurs activités. Mm-hmm. Et je répète, là, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, là, ces mandats-là, ils ont vraiment été créés à l'aide d'un dialogue avec nos organisations partenaires locales afin d'identifier leurs besoins, afin d'identifier leurs priorités, pour élaborer vraiment la description, les tâches, les mandats offerts. Puis, ils vont même être réévalués là, un peu avant le départ pour s'assurer que les besoins, s'ils ont changé ou autre. Donc, cette nouvelle édition du PSIJ s'inscrit vraiment dans le mouvement décolonial, résultant d'un dialogue constant là, avec nos partenaires locaux. Puis, mandat diversifié dit aussi tâches diversifiées. Donc, les tâches que les stagiaires auront à effectuer là, varient entre des campagnes de plaidoyer, de sensibilisation des communautés, effectuer de la recherche ou encore développer des outils numériques, des outils de communication, la création de contenu sur les réseaux sociaux, les sites Internet, mais aussi contribuer avec le développement de politiques locales peut-être et de contribuer à l'établissement de partenariats là, sur le terrain. Donc, on offre là, des mandats aux tâches variées, non routinières, qui permettent vraiment aux stagiaires là, d'acquérir de réelles compétences pratiques qui vont venir les préparer là, pour leur future carrière. Donc, en bout de ligne, là, c'est vraiment 19 mandats dans 16 pays qu'on offre pour cette année. Si je peux vous donner quelques exemples, là, on a des mandats en droit à l'éducation, particulièrement au Lesotho et avec notre partenaire Cladé en Amérique centrale et du Sud, notamment au Brésil et en Argentine. Pour ce qui est des mandats des droits des femmes et des communautés, on va en retrouver au Honduras et au Sri Lanka. Il va y avoir aussi des mandats plus en communication au Népal et au Cameroun. Et on a un mandat là, plus particulièrement en environnement qui va toucher le maraîchage biologique et les changements climatiques au Bénin. Mais l'environnement est vraiment là, un thème transversal qui va se retrouver aussi dans d'autres tâches de différents mandats, tout comme les droits des femmes, tout comme la communication. Puis cette année, on a un mandat qui va venir se démarquer. On a un mandat qui est en ligne. Donc, c'est un mandat en recherche et communication pour les droits des femmes en République démocratique du Congo, avec notre partenaire local, le SOFEDI. Puis, il s'agit d'ailleurs d'un mandat rémunéré qui peut être très intéressant pour une personne qui, malheureusement, ne peut pas se déplacer à l'étranger, mais qui voudrait tout de même vivre ce type d'expérience-là. Donc, c'est vraiment possible de voir là, qu'on offre une variété de mandats afin de développer une expérience et des compétences pour le futur.
Oui, dans 19 pays avec 16 mandats, c'est complètement fou. Quels sont les retours des jeunes qui font ces stages maintenant que ça existe depuis pas mal d'années? Avec quoi ils reviennent?
Ah ben, en fin de compte, ça me permet de parler de l'événement qu'on a ce soir, le 5 à 7. On organise un 5 à 7, une séance d'information en fait, ce soir dans les bureaux de l'Alternative, où justement il va y avoir des jeunes, des gens qui ont participé à des mandats avant dans l'ancien programme de stage d'intervention pour les jeunes et qui vont aller donner leur retour d'information, ce qu'ils ont vécu. Et c'est une façon en fait de prendre conscience que les jeunes qui ont vécu ces stages-là à l'étranger, ça leur a vraiment bénéficié. Ils ont vraiment participé à un projet fédérateur, mais aussi dans le Sud Global, que j'ai dit tout à l'heure, avec le sentiment d'avoir aidé des communautés. Et donc, on vous invite ce soir. En fait, compte, n'importe qui peut venir. C'est ouvert à tout le monde, grand public, à partir de 18h au 3720 avenue du Parc.
Quel est le programme ?
Alors, le programme, comme je viens de le dire, des jeunes qui vont parler de leur expérience, mais aussi on va avoir des informations, comme Cassandra vient de le faire, mais un peu plus poussées sur les mandats. Quelles sont les tâches à effectuer, combien de temps ça va durer. On va présenter les partenaires aussi, à Montréal ou à l'étranger, bien sûr. On va décrire les grands âges des stagiaires, je viens de le dire. Et puis, on va surtout présenter aussi les formations pré-départ et les deux semaines qui suivent les retours des stagiaires. Donc, en quoi ça consiste, comment on va les préparer au stage pour qu'en fait, quand ils partent avec déjà des outils et en fait, une forme d'expérience ou de connaissance du pays et puis des tâches qu'ils vont réaliser. Ça peut, par exemple, être une formation à créer un podcast ou alors une balado ou alors filmer des communautés. Donc, ce soir, on va présenter ça. Et puis voilà. Donc, c'est encore une fois ouvert à tout le monde à partir de 18h ce soir. Vous êtes les bienvenus. Donc, n'hésitez
pas.
Toutes
celles et ceux qui aimeraient faire un stage à l'international, ça donne envie. Peut-être que je me déplacerai. vous parliez d'employabilité, du fait que ces jeunes rencontrent en général des obstacles sur le marché du travail. Quelle valeur ça a d'avoir fait un stage comme ça, un tel stage à l'international, une fois qu'on est de retour au Québec, à Montréal ?
Je ne sais pas si tu peux. Non.
En fait, je pense que ça te permet d'acquérir des compétences, mais aussi juste des compétences relationnelles et sociales qui tu ne pourrais pas développer ici. Mm-hmm. Ça t'amène, on parle justement de notre thématique est diversité pour une diversité transformatrice. Les personnes qui reviennent transformées souvent sont les stagiaires. Donc, ça te permet de mettre de l'avant une expérience qui va te démarquer vraiment des autres candidats, candidates qui vont postuler. Pour être honnête, là, on se promène, que ce soit au cégep ou à l'université. C'est bien rare qu'on va connaître beaucoup de personnes qui ont fait ce type d'expérience-là. Mm-hmm. Donc, je pense que ça te permet de te démarquer. Puis aussi, c'est ça, d'avoir une certaine sensibilité là, de plus. Là.
Puis j'ajouterais une confiance en soi plus grande aussi pour aller s'intégrer dans le marché du travail, malgré le fait d'appartenir à une communauté qui est plus fragilisée d'habitude dans cette catégorie-là, puis dans cette recherche de travail. Donc, c'est vraiment aussi un gain de confiance en retour, en fait. Voilà, quoi.
On en vient à quelque chose de très important. Comment on postule à un stage ?
Alors, on va sur le site de l'Alternative, alternative.ca, donc alternative avec un S.ca. Et puis, on a une page dédiée aux offres de stage. Donc, sur la page principale, la page d'accueil, il y a déjà un bandeau où on peut cliquer dessus et on va atterrir sur la page principale du programme. Mmh. Et là, on explique brièvement à quoi ça consiste. Et puis, il y a des boutons postulés à plusieurs endroits sur la catégorie stage en haut à droite. On clique et là, on va arriver sur la page spéciale pour les stages où il y a toutes les offres de stage. On clique et tout est descriptif. C'est bilingue, on a en français et en anglais. Et puis à chaque fois, sur chaque offre de stage, donc il y a le descriptif du mandat, on peut postuler, c'est écrit postuler, puis on a un formulaire en ligne. Je tiens à préciser aussi qu'on a une politique de confidentialité, donc toutes les informations, bien sûr, qui sont sensibles, c'est très important pour nous, donc c'est traité de façon professionnelle. Une fois que les gens ont postulé, nous, on reçoit les soumissions, et puis on va faire un processus de sélection, voir si les gens répondent bien aux exigences, mais aussi quel pays ils ont choisi en premier, deuxième, troisième choix. Puis après, on va appeler les gens pour faire des entrevues, puis sélectionner, voir qui on va mettre où et en fonction. Voilà. On s'adapte et on est très intentionné vis-à-vis des stagiaires. Mmh. S'ils ont, par exemple, des réticences par rapport à tel pays, on va essayer de voir comment.
Ah oui, donc il y a quand même un choix de pays à faire.
Oui, il y a un choix de pays à faire. Non, il y a un choix de pays à faire, mais on a premier, deuxième, troisième choix. Okay. Puis après, on essaie de s'arranger avec les stagiaires en fonction de leurs connaissances, sachant que certains ont déjà certaines expertises et des connaissances. Donc on va faire ça de façon judicieuse et intelligente. Voilà, et sensible.
Sur quoi vous basez votre sélection ? Quels sont les documents, les exercices demandés à ceux qui postulent ?
On reçoit déjà une lettre de motivation et un CV. Et puis derrière, bien sûr, on va leur poser des questions comme une entrevue d'embauche, en fait, une entrevue d'emploi, avec quelles sont leurs motivations, est-ce qu'ils connaissent tel pays qu'ils ont choisi, qu'est-ce qu'ils connaissent du programme,
même si on comprend que c'est un peu basique ce qu'ils vont comprendre du programme, on va aller les former derrière. Mais en gros, c'est quoi leurs attentes, leurs motivations, leur retour d'expérience sur leur difficulté à trouver un emploi. Donc tout ça, on va faire en sorte qu'on va aller mieux cibler et mieux comprendre les besoins aussi des stagiaires.
Donc il y a vraiment quelque chose de personnalisé autour de
chaque
stagiaire.
Oui, pratiquement, oui, exactement.
Vous avez beaucoup de demandes ? Assez, selon vous ?
On n'a jamais trop assez, donc on invite les gens à postuler. Pour l'instant, ça va bien, mais c'est sûr que plus on en a, plus on va pouvoir proposer des stages et aller sélectionner les gens en fonction de des critères plus fins. Donc, il ne faut pas hésiter à postuler. Puis, de toute façon, même si des gens, ça c'est important de le dire, ne peuvent pas partir cette année, c'est un programme de 5 ans.
D'accord.
Donc, on a une cohorte cette année, mais les autres années, on va en avoir 2. OK, par année. Donc, c'est quand même 2 cohortes de 20 stagiaires, donc 40 stagiaires par année. Et cette année, si on peut en envoyer plus que 30, on va le faire, en fait, quand il n'y a pas vraiment de... Après, c'est une question de réussir à gérer 40-50 personnes. Mais si on peut dépasser 30, on va le faire. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à postuler.
Vous n'avez pas un plafond de stagiaires envoyés ?
Si, en fait, c'est, on ne l'a pas dit, mais c'est 190 stagiaires sur 5 ans, dont 119 à l'étranger et le reste en ligne, comme l'a dit Cassandra en RDC, donc avec le partenaire RDC. Donc, on a un plafond de 190 stagiaires. Okay. Mais c'est une limite qui peut bouger.
C'est flexible, très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous expliquer tout ce programme. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux.
Oui, on est sur Instagram, exactement, Alternative MTL, sur Facebook, pareil, Alternative MTL, et sur LinkedIn, Alternative MTL, donc c'est pas compliqué, vous allez nous trouver facilement.
Ce soir, le 5 à 7, très important.
5 à 7, très important, 18h, 37-20, on peut descendre du métro Sherbrooke en marchant 10 minutes ou en prenant le bus 135, je pense, sur Parc.
Merci pour l'itinéraire, c'est parfait. Bon sac à 7 à tous les deux et puis bon programme de stage.
Merci de nous avoir reçus.
On continue sur CIBL avec l'entrevue du président des Éco-Montréal.
Encore une autre story où l'amour est un voyou. Voilà un peu ta folie, tout le monde s'en fout. L'important c'est d'être joli, personne n'est au rendez-vous. Et plus le monde en rit, plus on en est fou. Corps noyé flotte dans la mer floue. Le vent et la marée le secouent. Encore un autre party. Est hypnotique, mon âme est un peu partout. On hurlera la rythmique comme dansent les loups. Ton corps noyé flotte dans la mer floue.
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Salut, mon nom est Sylvain. Je suis un préposé au renseignement, organisé et consciencieux.
Si Sylvain n'a pas mentionné qu'il est paralysé, c'est que ça n'a aucune incidence sur son emploi. Ne laissez pas un handicap vous définir. Joignez-vous à la fonction publique. Travaillez pour le Québec, plus qu'une carrière. Un message du gouvernement du Québec.
Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission Trait d'union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis à l'émission Trait d'union à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
La girafe en blues. À chaque semaine, Jean Gagnon Doré reçoit un artiste de la scène musicale québécoise. La girafe en blues, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h.
CIBL 105 Montréal.
Et on est de retour sur CIBL. Avant la pub, vous écoutiez Story de Courge et Melon. Je suis désormais avec Vincent Di Candido, président du journal Les Échos Montréal, qui vient nous parler, comme à chaque mois, de leur dernier numéro. Bonjour Vincent.
Bon matin.
Et aujourd'hui, c'est le journal du mois de mars qui est à l'honneur. On commence avec la une du journal qui est dédiée à Paul Saint-Pierre Plamondon, avec qui vous avez mené une entrevue. C'est une fierté pour un journal local de s'entretenir de manière exclusive avec un chef de parti provincial.
Oui, il faut reconnaître aussi que même par le passé, la grande majorité des chefs politiques, on a eu la chance et l'occasion de les interviewer. Mmh. C'est le cas pour M. Plamondon.
Et pourquoi lui avoir proposé une entrevue à lui? Pourquoi pas un autre chef de parti figure sur la une de votre journal?
Il y a un historique. C'est que moi, personnellement, j'ai côtoyé Camille Lorrain. En fait, j'étais son organisateur dans les années 76. Donc, j'ai connu René Lévesque aussi, que j'ai côtoyé à plusieurs reprises. Et donc, tout mon cheminement m'a mené vers un consensus dans le sens que le Québec, c'est difficile de s'autogérer avec la politique fédérale. Ça a toujours été le cas et c'est le cas actuellement. Donc, dans ce sens-là, je me suis dit, voilà un jeune homme qui semble dynamique. Je lui souhaite bon courage parce que les sondages qu'on a faits d'ailleurs dans le dernier journal prouvent que c'est très difficile d'obtenir l'indépendance. Mais c'est un homme quand même que je crois sincère et qui est très dynamique vis-à-vis d'avoir remis sur les rails ce parti-là.
L'entrevue s'est déroulée dans un café à Hochelaga. Pourquoi ce lieu pour l'entrevue?
En fait, c'est un choix unanime, autant de mes journalistes, mais particulièrement de M. Plamondon, qui souhaite se mêler avec des citoyens qui ne sont pas nécessairement dans l'aisance, dans des quartiers riches, si vous voulez.
Mmh. Comment vous avez défini les sujets de l'entrevue? On va y revenir à tous ces sujets. Pourquoi ces sujets-là?
Bien, ce sujet-là, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose d'anormal qu'on voulait définir avec M. Plamondon, un exemple, la péréquation. On sait que, d'après ce qu'il nous a dit, qu'on envoie, le Québec envoie au fédéral environ 80 milliards. Et de ce lot-là, il y a à peu près 30 milliards qui reviennent au Québec. Les autres, c'est sur beaucoup de conditionnels. Mmh. Par exemple, ça peut être l'armée française, l'immigration, tout ça, ou beaucoup de sujets que le Québec, même le ministre actuel, M. Legault, n'est pas nécessairement d'accord des pouvoirs que le fédéral a. Il essaie de négocier continuellement, mais on voit que, comme par le passé, incluant le père Trudeau, c'est toujours la même histoire, c'est que le Québec, c'est le parent pauvre du Canada qui ne pourra pas nécessairement obtenir des gestions de sa province de la façon qu'il souhaite.
Vous avez donc en effet parlé d'indépendance avec Paul Saint-Pierre Plamondon, logiquement, j'ai envie de vous dire, mais pendant une bonne moitié de l'entrevue, pourquoi ne pas choisir des sujets plus locaux? Pourquoi parler d'indépendance provinciale alors que vous êtes un journal local? Pourquoi ce choix?
Bien, parce que en fait, Montréal, c'est particulier. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'ethnies à Montréal. Et chaque fois, la grande majorité des ethnies ne sont pas nécessairement d'accord avec le principe de l'autodétermination du Québec. Donc, et même M. Paul Plamondon, il essaie de faire des efforts pour les convaincre qu'on n'est pas contre eux, mais on voudrait travailler avec eux. Mais c'est une dynamique différente parce qu'on sait que le marché de l'emploi, le marché de ces gens-là se situe beaucoup plus vis-à-vis l'anglais que le français.
Vous parlez également de son statut de chef de parti, de sa vie personnelle, et elle est au plein cœur des projecteurs en ce moment-là, de la crise des médias. Sur ce dernier sujet, Paul Saint-Pierre Plamondon est revenu sur son plan pour soutenir le journalisme et les médias locaux. Vous qui êtes concerné, quel œil vous portez sur ces propositions?
C'est très important parce qu'on se rappelle qu'au temps du premier ministre Parizeau, il avait suggéré à ses ministres d'attribuer au minimum 4% du budget aux journaux locaux, donc communautaires et autres. Et malheureusement, il n'y a pas eu une continuité avec le Parti québécois. Comme on le sait, c'est les libéraux qui ont pris par la suite le pouvoir. Et ils n'ont jamais eu à respecter cette volonté du Parti québécois qui voulait donner 4%. Donc, et les journaux locaux, comme on le sait, surtout dans la crise actuelle des journaux, ils ont énormément de difficultés à survivre. La preuve, même Montréal, on est maintenant le seul journal, et je parle même de la grande région de Montréal, le seul journal communautaire local qui existe encore sur le marché. Mais il faut se battre continuellement.
Et les propositions du Parti québécois sont pour vous viables, pourraient permettre aux médias locaux de survivre?
On espère, c'est-à-dire qu'on souhaite quand même que le gouvernement, qui dépense beaucoup d'argent dans les publicités, et particulièrement y encourage plutôt des secteurs qui ne sont pas nécessairement les nôtres, par exemple vis-à-vis de la publicité sur Internet et d'autres moyens, Meta et autres, ils continuent à annoncer là, alors que les journaux locaux, il y aurait besoin, et même, pas rien que les journaux locaux, les journaux québécois, il y aurait besoin de plus d'aide des gouvernements dans leur budget publicitaire. Et c'est ce qu'ils ne font pas.
Et qu'est-ce que ça témoigne, justement, le fait que Paul Saint-Pierre Plamondon accepte une entrevue avec un média local comme le vôtre?
Monsieur Plamondon est très proche de la population. On s'en est aperçu d'ailleurs, c'est pas pour rien, dans les sondages qui est passé devant la CAQ, parce qu'on lui trouve une certaine sincérité. Maintenant, évidemment, il n'est pas au pouvoir. Reste à voir une fois au pouvoir s'il n'y a pas de changement. Mais il semble sincère et dans toutes ses allocutions, même ses différents projets d'avenir pour le Québec. C'est crédible. Est-ce que ça va continuer? Ça, je ne le sais pas. Mais de toute façon, on fait la même démarche avec la CAQ, on fait la même démarche avec d'autres partis, mais que c'est très difficile d'obtenir des réponses véritables.
C'est ça. Vous avez du mal à approcher les politiciens en général?
Surtout les derniers politiciens, particulièrement la ville de Montréal, je ne vous le cache pas, et le fédéral.
Oui, très bien. Pourquoi c'est important pour vous que les personnalités publiques et politiques s'adressent aux médias locaux et pas seulement les grands médias, les médias sociaux?
Parce qu'on veut leur faire avouer quels sont les projets vis-à-vis la population locale particulièrement. Parce que nous, on est un journal local, n'est-ce pas? Même si on fait certains articles qui sont beaucoup plus larges. Et donc, on voudrait que les politiciens se prononcent vis-à-vis des enjeux locaux. Il y a énormément d'enjeux qui sont locaux et qui ne sont pas nécessairement maintenus.
En parlant d'entrevue avec les politiciens, vous le disiez, vous avez du mal à approcher l'administration Plante. Quelles ont été vos démarches à leur égard ?
Les démarches avec l'administration Plante depuis le début, c'est-à-dire depuis sa première élection, on en demandait à l'interroger. On voulait poser beaucoup, beaucoup de questions, que ce soit l'état des routes, l'habitation, les cônes oranges, un paquet de choses qui sont pour les logements à prix sociaux, beaucoup de questions qu'on avait, mais elle n'a jamais voulu répondre qu'elle était d'accord pour ça. Mm-hmm. Pourtant, par le passé, tous les maires, y compris M. Tremblay, qu'on n'a pas porté dans notre cœur pour une poursuite qu'on avait eue par la suite, ils sont prêtés de bonne foi à répondre à nos questions.
Dans votre journal, vous mentionnez justement que peut-être la mairesse Valérie Plante, ou son équipe du moins, ne répond pas à vos demandes en raison de certaines critiques que vous émettez dans votre journal. Et c'est vrai que depuis 3 numéros, on parle de certains articles critiques à l'égard de son action. Est-ce que vous pensez que ça a un impact sur sa volonté ou non de vous répondre ?
Non, parce que même avant ça, comme je viens de vous mentionner, depuis le début de son élection, ne souhaite pas répondre à des questions. Parce que répondre à des questions, ça veut dire nous indiquer qu'elle souhaite ses orientations pour Montréal. Il y a des questions très précises qu'on voudrait poser pour Montréal, pas pour Québec ou ailleurs, mais pour Montréal. Et malgré tout, un exemple très concret, nous, on a fait un projet, peut-être qu'on va en parler un peu plus loin, vis-à-vis de la langue française. Or, comme vous le savez, le 20, c'est le mois international de la langue française. Donc, les grandes villes participent. Et nous, on a fait un projet inédit et grandiose que le gouvernement du Québec, le ministère de la langue française, nous avait accordé. Et on a demandé si elle voulait écrire un petit texte dont le ministre se prêtait et d'autres personnes se prêtaient. Elle n'a même pas répondu, parce que bien souvent aussi, ça c'est un manque de fair play, ne répond même pas qu'elle a reçu une demande et ne répond même pas.
En effet, la transition est toute faite. On va parler de l'action de la mairesse Plante à l'égard de la langue française et ensuite de votre grand projet pour cette langue. Vous abordez dans votre éditorial l'action de la mairesse pour la protection de notre langue. Quel est votre propos ? Quelles sont les critiques que vous émettez à son égard ?
Mais si vous avez regardé l'éditorial que j'ai fait, ce n'est pas juste pour la mairesse. J'écris aussi pour celui qui se présente comme candidat.
Denis Coderre.
Denis Coderre, ouais. Voilà. Donc, M. Coderre, comme on le sait, il a perdu deux élections contre Valérie Plante, mais maintenant, il la défend vis-à-vis certains éléments. Par exemple, le 3 000 $ qu'on accorde aux étudiants étrangers, qu'elle croit qu'on va perdre en potentiel, alors qu'on sait pertinemment, d'après tous les sondages, que ces gens-là, une fois qu'ils ont terminé, la grande majorité se retournent chez eux. Mm-hmm. Donc, le gouvernement avait attribué 3 000 $ qu'il veut enlever à Concordia et McGill pour les donner aux universités francophones. Ce qui est normal. D'ailleurs, je fais remarquer que parmi les provinces, le Québec, malgré ces 3 000 $ à moins, c'est la plus généreuse parmi les provinces, à accorder un budget.
On parlait de langue française. Vous, vous attachez en tout cas à la défendre avec le concours Le français, une langue qu'on aime, dont vous avez publié les résultats dans le dernier numéro. Rapidement, quel est le principe pour ceux qui ne connaissent pas ce concours ?
Ce concours s'adressait, et c'est inédit, comme je l'ai dit tantôt, s'adressait pour la première fois à notre connaissance à des étudiants. Là, c'était le secondaire 3. Ça se peut que l'année prochaine, on aille plus haut. Donc, en leur demandant d'écrire environ 300 mots, qu'est-ce qu'ils pensent de la langue française. Et évidemment, ça a été très difficile, d'autant plus qu'il y a une grève par les professeurs. Et toute la démarche pendant un an qu'on avait fait, ça a été très difficile à se concrétiser. Ça s'est concrétisé au dernier moment. Et ces jeunes-là nous ont donné les résultats. Je dois vous dire sincèrement, c'est catastrophique. Alors, tout ça, c'est pas nous qu'on a décidé en passant. Les professeurs y ont fait un premier triage et il y avait un comité d'experts qu'eux y ont choisi les trois gagnants. Et je dois ajouter que tous les autres intervenants, même ceux qui n'ont pas gagné, ils recevront un bon de $25 à renombrer pour s'acheter de...
De quoi faire.
De quoi faire, voilà.
En tant que média local, vous considérez que vous avez une responsabilité vis-à-vis de la protection de la langue française ?
Oui, on a une responsabilité comme n'importe quel citoyen. Je pense que c'est une ville, un pays, Québec, qui est francophone. C'est la seule province du Québec qui est francophone, du Canada, qui est francophone. Et je me dis, chacun de nous, il y a une responsabilité vis-à-vis de l'anglicisation qui est de plus en plus évidente, même chez les francophones. Donc, c'est important de mettre un frein. Et ce qu'on voulait, c'est par ces détails de ce qu'ils ont écrit et fait, ces jeunes-là étudiants, qu'on va soumettre ça au ministère de la langue française, qu'ils décideront ce qu'ils veulent, mais ils vont savoir ce qui se passe réellement.
Et vous avez eu un engouement pour ce concours ? Vous avez eu beaucoup de soumissions de textes ?
C'est-à-dire qu'on a été pas mal bloqués par des professeurs qui étaient en rogne contre le gouvernement. Soit je dois l'avouer. Malgré tout, il y a des professeurs qui sont prêtés à cet exercice-là. On a eu quand même une centaine de participants, ce qui n'est pas rien dans l'état actuel. Donc, d'autant plus qu'on ne connaissait pas qu'est-ce que c'était exactement. Des jeunes y hésitaient, tout ça. Je suis persuadé, évidemment, quand ça va se répéter, qu'il y aura beaucoup plus de gens. Mais malgré tout, ça donne un aperçu de ce qui en est vis-à-vis le secondaire 3 actuellement.
Très bien. Merci beaucoup, Vincent, d'être venu nous présenter votre numéro. On peut le retrouver gratuitement sur votre site internet et gratuitement aussi dans plein de kiosques partout dans la ville, en papier, très important. Merci beaucoup et puis on se voit pour le mois d'avril.
Merci beaucoup. Et s'ils veulent, évidemment, nous appeler pour avoir des détails, il n'y a aucun problème. On est disponible.
Très bien. On vous appellera. Merci beaucoup, Vincent. Bonne journée.
Merci, vous aussi.
On continue sur CIBL avec le dernier reportage de notre journaliste Daniel Biru.
On a des pattes, des belles oreilles, des nez qui hument. Des yeux qui grouillent, on a des poils et de la peau très douce, on a des griffes et des langues roses, on lèche parfois, parfois on mord, on hurle à la lune en faisant l'amour, on se fait écraser par l'autobus. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- sans avoir rien dit. Lila, Lila, l'amour est là. Lila, Lila, ouvre les bras. Lila, Lila, l'amour est là. Lila, Lila, ouvre les bras. On peut nous voir parfois ensemble. On jurait qu'on parle pour vrai. Des fois on pense, on dirait qu'on souffre. Des fois on grogne, on dirait qu'on pleure. On est les plus beaux, on est les plus laids. On est les plus forts, on est les plus faibles. Quand on n'a rien, on a besoin de tout. Quand on a tout de tout, on a besoin de rien. Lila, Lila, l'amour est là. Lila, Lila, ouvre les bras. Lila, Lila, l'amour est là. Lila, Lila, ouvre les bras. Lila, Lila, l'amour est là. Lila, Lila, ouvre les bras. Lila, Lila, l'amour est là. lila, lila, ouvre les bras.
C'était On a des pattes de belles oreilles de Garnaud Bory et c'est au tour de notre journaliste Daniel Biru de nous présenter son dernier reportage. Bonjour Daniel.
Bonjour Charlène, ça va bien ?
Oui, ça va très bien et aujourd'hui tu nous proposes un reportage sur un festival qui n'existe plus.
Non, en effet, le festival Juste pour rire qui a annoncé dans les, justement là, dans les dernières semaines l'annulation de son édition 2024, donc en fait que le festival n'aura pas lieu sous la même forme, justement, cet été. Un festival, évidemment, qui devait se tenir à peu près à deux pas des studios de CIBL, vraiment en plein centre-ville de Montréal, mm-hmm. dans le quartier des spectacles. Donc, on va voir, en fait, quelles vont être là, les prochaines étapes des organisateurs du festival. Mais entre-temps, c'est ça. Il n'y aura pas d'édition du festival Juste pour rire en 2024, là, sous la forme là, qu'on la connaît.
Très bien. Eh bien, on écoute ton reportage et on revient ensuite pour une petite conversation.
La première nouvelle, ça a été, je pense, un peu comme les étapes du deuil. Là. Ça a été le déni.
L'humoriste Charles Deschamps était en véritable état de choc lorsqu'il a appris la nouvelle.
C'est un gros livre, c'est même pas une page de l'histoire, c'est un livre qui se ferme là, de l'histoire de l'humour québécoise. Puis même, c'est le premier livre de l'histoire de l'humour au Québec, quasiment. D'accord. Fait que c'est ça. De la peine, de la tristesse, de la surprise, beaucoup d'émotions.
Avec le festival Juste pour rire qui annonce l'annulation de ses activités pour la saison estivale 2024, bon nombre d'humoristes remettent leur carrière en question. D'autant plus que les nouvelles semblaient aller dans le bon sens dans le milieu. Malgré une période difficile avec la pandémie, le festival a bien su rebondir avec des éditions en 2022 et en 2023. Malheureusement, le 5 mars dernier, Juste pour rire a dû se placer à l'abri de ses créanciers, forçant la mise à pied de plus de 75 personnes dans son organisation. Cela représente 70 % de ses effectifs. Selon Charles Deschamps, c'est une grande page de l'humour québécois qui se tourne.
Juste pour rire, c'est un gros point de repère dans l'espèce de cycle de création d'un humoriste. Souvent, les humoristes, l'espèce de routine annuelle qu'on avait, c'est que septembre, on commençait à écrire du nouveau matériel, à essayer de bâtir des numéros de 7-8 minutes qu'on allait travailler, roder durant l'année pour présenter aux auditions de gala, pour essayer de faire un gala. On est un peu perdu, confus sur comment qu'on va vivre notre vie d'humoriste.
Fondé en 1983, Juste pour rire était le plus grand festival international d'humour au monde. L'événement a attiré 1,3 million de spectateurs en 2023, générant des retombées économiques d'environ 34 millions de dollars. Co-fondateur du Bordel Comedy Club, qui présente plusieurs spectacles d'humour, Charles Deschamps confie que le festival Juste pour rire était le gros événement de l'année pour tout humoriste québécois. La décision aura certainement un impact sur chacun d'entre eux.
Juste pour rire, c'était les Olympiques. Ouais. C'est quelque chose qui arrive une fois aux 4 ans, mais là, une fois par année. Ouais. Tandis que, mettons, le Canadien joue à une saison complète. Fait que le bordel est là tout le temps. Puis Juste pour rire, c'est un événement qui était là singulièrement une fois dans l'année.
Du côté anglophone, les humoristes sont également très déçus de cette annonce et pour l'avenir de l'industrie. Sid Collar, du Montreal Comedy Club, produit de nombreux artistes à travers les métropoles sur une base quotidienne. Il dit qu'il leur souhaite un avenir brillant dans le métier, mais qu'honnêtement, il n'a pas beaucoup d'espoir. On a espoir que Juste pour rire reviendra en 2025, dit-il. Entre-temps, il y a plusieurs comedy clubs comme le nôtre qui espéront produire plus de spectacles dans la ville. On pense que ça peut venir pallier la situation, même si elle demeure très précaire. Il est clair que le modèle des spectacles préconisé par l'industrie touristique des grandes villes comme Montréal est appelé à connaître certaines difficultés au cours des prochaines années. Tourisme Montréal, qui n'a pas voulu accorder d'entrevue à CIBL, a toutefois dit dans les derniers jours avoir connu des retombées économiques de plus de 30 millions de dollars par année, en dépit du festival. Sans parler de l'impact culturel qui façonne la ville et sa population depuis 40 ans. Qu'en est-il donc de la suite des choses? Charles Deschamps explique qu'il a espoir qu'un projet ralliant une panoplie d'acteurs du milieu se concrétise au cours des prochaines années. S'il n'en connaît pas encore la forme, il lance tout de même quelques idées.
Mais je pense que il va y avoir d'autres événements. Est-ce que Juste pour rire va renaître de ses cendres? Est-ce que Comédia va débarquer à Montréal? Est-ce que le Festival Exclame, qui est un festival de la francophonie, qui ont plusieurs... qui est le petit bébé de Montreux, qui est le gros festival en Suisse. Est-ce que qui va prendre la place de Juste pour rire? Mais je sais qu'il y a déjà du monde qui s'essaye.
À la suite de l'annonce, certains humoristes et productions ont effectivement été en mesure de se remettre sur pied en annonçant pour leur part de bonnes nouvelles. C'est le cas de l'humoriste Eve Côté et de la comédie musicale Waitress, reprise par Comédia, et qui continueront ainsi leur tournée au Québec ces prochains mois. Si l'avenir du festival en tant que tel demeure incertain, reste à voir si ce choc collectif permettra au milieu d'évaluer le marché pour ainsi mieux revenir. Ici Daniel Biru pour CIBL à Montréal.
C'était le reportage de Daniel Biru. Merci beaucoup, Daniel, pour ce reportage. Plus globalement, la fin de Juste pour rire, c'est un gros choc pour une ville et une province également qui sont considérés comme des territoires d'humour, n'est-ce pas?
Des territoires d'humour, comme tu dis. J'entendais plusieurs humoristes, évidemment, dans les dernières semaines rappeler en fait que Montréal, c'est vraiment la capitale mondiale de l'humour francophone. C'est donc évidemment un très grand choc pour un bon nombre d'entre eux. Évidemment, il y a plusieurs... Il y a de nombreux humoristes qui passent par Montréal, justement, là, dans le cadre de leur tournée, là, dans le cadre des spectacles qu'ils offrent. Donc, évidemment, c'est un grand choc pour tout le monde d'apprendre cette nouvelle-là. Ouais.
Tu as mentionné Tourisme Montréal. Pour toi, quelles seront les retombées de cette fermeture pour l'ensemble de la santé touristique et économique de Montréal?
Évidemment, comme je l'ai mentionné dans mon reportage, j'ai pas eu la chance de parler avec des représentants de Tourisme Montréal. Ils ont décliné notre demande d'entrevue. Toutefois, il faut dire que de ce qu'ils ont dit à d'autres médias, il y aurait des pertes qui engendreraient plus de 1 million de dollars en retombées économiques. Donc ça reste quand même là, des grosses pertes. Il y a plus de 200 000 touristes qui sont venus à Montréal pour profiter justement du festival en 2023. Donc ça reste une grande perte pour eux, évidemment. On va voir de quelle manière est-ce qu'ils vont pouvoir se relancer au cours de l'été à venir.
Ouais, c'est une perte pour l'industrie touristique, mais aussi pour l'industrie de l'humour. On a vraiment compris l'importance du festival pour le monde de l'humour québécois. Les humoristes vraiment étaient tournés vers ce festival chaque année.
C'est ça, oui. Donc, justement, en 2023, quand j'ai fait mes recherches, j'ai constaté qu'il y avait environ une trentaine d'artistes qui ont passé par le festival Juste pour rire, que ce soit en salle ou dans les sections un peu plus extérieures du festival. Il y a notamment Yvon Deschamps qui a présenté plusieurs spectacles l'été dernier. Évidemment, c'est une grande perte pour tout le monde, là, comme je l'ai mentionné. On se demande vraiment qu'est-ce qui va devenir de ces humoristes-là au cours des prochains mois, des prochaines années. Comment est-ce qu'ils vont être en mesure de maintenir en fait un certain équilibre pour pouvoir poursuivre leur carrière, autant du côté francophone que du côté anglophone. Évidemment, on constate aussi là, les répercussions importantes, là, comme je l'ai mentionné, du côté anglophone là, à travers cette nouvelle-là. Oui.
Bon, l'humour à Montréal n'est pas mort non plus. Il ne faut pas trop être défaitiste. Il existe tout un tas d'autres petits événements d'initiatives à Montréal. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui existe dans notre ville pour faire vivre l'humour encore une fois?
Écoutez, en fait, il y a quand même un bon nombre de Boris en ce moment qui sont en tournée et qui vont présenter des spectacles d'humour à Montréal au cours des prochains mois, là, des prochaines années. On peut penser notamment à des humoristes tels que Catherine Levac, Rosalie Vaillancourt, Mike Ward, Simon Gouache, Mehdi Boussaïdan, Michel Desrochers et une série là, d'autres humoristes. humoristes et en plus de ça, qui vont évidemment présenter des spectacles ici. Il y a également le festival Comédia qui va être plus du côté en fait de la ville de Québec qui va se dérouler comme prévu. Il y a le festival ZooFest aussi, donc ça reste quand même d'autres formules, d'autres festivals qu'on va pouvoir assister, que le public québécois va pouvoir assister au cours des prochains mois.
Ouais. Bon, il y a de l'espoir quand même. Merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces informations. À bientôt. Merci. Bonne journée.
Merci.
Et puis, on se revoit bientôt pour un prochain reportage.
Merci, au revoir.
On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Vous écoutiez Film Noir de Abel et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités et nos chroniqueurs du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc et Michael Asselin pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, on reçoit la fondatrice de la librairie de quartier Un Livre à Soi, suivie de Gabriel Nadeau-Dubois pour parler de crise du logement. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
CIBL 105 Montréal. Salut, mon nom est Camille et je suis une conseillère dynamique et polyvalente.
Si Camille n'a pas mentionné qu'elle est dyslexique, c'est que ça n'a aucune incidence sur son emploi. Ne laissez pas un handicap vous définir. Joignez-vous à la fonction publique. Travaillez pour le Québec, plus qu'une carrière. Un message du gouvernement du Québec.
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Pour un voyage musical dans les années 80, je vous invite à écouter Sprinette et Spandex où je vous fais découvrir des chansons méconnues mais néanmoins excellentes. Sprinette et Spandex avec Isabelle, les mardis après-midi de 4 à 6, en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL 101.5.
Bonjour à vous tous, ici Justin Leblanc. Je vous invite chaleureusement à écouter Fleur Bleue, votre rendez-vous musical québécois des années 70 à aujourd'hui, tous les dimanches soirs, 20h, à CIBL.
Cœur de la culture.